Bien, nous voulons ouvrir notre Bible dans le livre de Ruth, bien entendu. Et pour ne pas l'oublier, nous allons relire le dernier verset du livre des Juges, verset 25 du chapitre 21. Nous lirons les 5 premiers versets de Ruth, comme hier, et nous y ajouterons pour le moment les versets 19 à 21. 19 à 21, toujours du chapitre 1er. Donc je lis le dernier verset du livre des Juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Verset 19, nous avons là le duo Naomi et Ruth qui firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, « Cela, Naomi ?» Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé. » Et puis un court passage de l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Les versets 32 à 40. Jean 6, 32 à 40. Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit, « Mais je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Après avoir tissé la toile de fond de l'histoire d'une petite famille de Bethléem, hier matin, nous avons commencé à nous focaliser, à nous centrer sur cette petite famille elle-même, Élimélec, Dieu est roi, Naomi, ma beauté, ma charmante, ma grâce, ma tendresse, ma douceur. Un beau couple, avons-nous dit hier matin, et puis deux enfants, nés très certainement dans des circonstances difficiles, Maclon, maladie, Kilion, languissant ou fragilité, dont le décès précoce va dans le sens de nos suppositions. Et nous avons essayé de nous mettre dans la peau de ce père, de ce mari, qui lui ne voulait pas démissionner, qui tenait à se conduire en homme responsable de sa vie et conjugale et familiale. Nous avons vécu avec lui cette crise intérieure, cette pression venant de l'extérieur, de Moab, dont la situation économique, en quelque sorte, était nettement plus favorable là-bas, au loin, de l'autre côté de la profonde dépression de la mer Morte, en Jordanie. Et nous avons vu comment, finalement, sans doute après un combat intérieur, peut-être long, cet homme avait pris une décision, avait fait un choix et avait entraîné les siens, à commencer par son épouse, dans le sillage de son choix pour se rendre en Moab. Et nous avons été, dans un premier temps, hier matin, tentés d'applaudir, de remercier le ciel pour tant de bon sens, de sagesse, de sens de la responsabilité dont faisait preuve Élimélec. Et puis nous avons rapidement déchanté lorsque nous nous sommes quelque peu penchés sur un certain nombre de textes des Écritures relatifs à ce territoire de Jordanie, Moab, vers lequel Élimélec se dirigeait. Et nous avons souffert, finalement, de voir Élimélec allait dans cette direction à cause de cette mauvaise réputation de Moab aux yeux de l'Éternel, de tout ce que sa parole dit à ce sujet. Et nous avions dû conclure hier matin qu'Élimélec avait cédé aux pressions de l'apparente sécurité moabite. Dieu n'était pas seigneur dans son choix. Dieu n'était pas seigneur dans sa stratégie. Élimélec s'inscrivait finalement dans le lot de tous ceux qui, à cette époque, en terre d'Israël, faisaient ce qui leur semblait. C'est-à-dire ce qui ressemble au bien, mais qui n'est pas bien. Et c'est là le problème, n'est-ce pas, pour nous, disciples de Christ. C'est que dans bien des situations, comme nous allons le voir, il est des domaines qui ressemblent au bien, mais qui pourtant ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Et c'est là que nous nous laissons prendre par le climat de relativisme aussi de notre temps, à savoir que nous vivons dans une époque où le bien est appelé mal, où le mal est appelé bien, où le mal n'est pas le contraire du bien, mais où le mal est souvent un autre bien, tout simplement. Cette conception des thèses et de leur contraire, vous le savez, a fait place à la conception de la thèse, de l'antithèse, mais aussi de la synthèse, où finalement il faut prendre dans le mal des choses qu'on appelle bien pour construire. Ça, c'est le drame de notre temps. Mais c'est aussi souvent le drame de l'Église de Jésus-Christ, qui subit ces pressions tellement fortes d'un monde moabite. Nous subissons des pressions depuis l'extérieur, n'est-ce pas ? Nous sommes environnés de ce climat moabite. Et puis nous subissons des pressions internes au sein de l'Église de Jésus-Christ elle-même. C'est difficile. C'est difficile de ne pas succomber à ces pressions. Surtout dans ces temps où il nous faut faire des choix, parfois des choix vitaux, cruciaux, qui engagent non seulement notre propre existence, mais celle de ceux qui nous sont chers. Vous avez remarqué comment nous avons indiqué sur ce tableau que Moab était vraiment synonyme de recul, de vie, dirons-nous, de caractère rétrograde. Et nous allons d'ailleurs continuer à creuser dans cette direction. Oh, il serait aisé de tout de suite envisager de parler beaucoup de réveil. C'est tentant. Mais je ne crois pas que ce soit juste. Nous n'avons pas le droit de court-circuiter la pensée de Dieu. Et pour comprendre ce que la Bible définit comme étant véritablement le réveil personnel, il faut d'abord envisager de comprendre ce qu'est le processus du recul, de la vie rétrograde, parce qu'il n'y a pas de réveil sans d'abord une confession personnelle d'une vie rétrograde. Souvent, on parle de réveil en disant « mais c'est le temps où les gens se convertissent, où le Saint-Esprit souffle. » Des pans entiers d'un pays, des régions, des villes et des villages se tournent vers Jésus-Christ. Pardon de le dire, mais ce n'est pas le réveil. C'est le fruit du réveil. Le réveil, c'est autre chose. En réalité, le réveil dans les Écritures, c'est un retour à la vie. C'est une sortie du sommeil qui dit réveil. Vous vous êtes réveillé ce matin. Moi aussi.
Parce que nous avons dormi.
Et on ne peut pas, je dirais, entrer dans un véritable processus de réveil si l'on n'a pas d'abord reconnu, compris qu'il y avait dans nos vies sommeil à quelque part. Un jour, Dieu nous a éveillés à la vie nouvelle. Et Satan a tout fait pour nous endormir. Hein. Alors, essayons de voir quel est ce processus du recul et de la vie rétrograde à partir de ce début de l'histoire d'Élimélec et de sa famille. Quelle est la faute d'Élimélec et de Naomi ? Nous l'avons sous-entendu, leur faute, c'est d'avoir quitté une position stratégique. C'est d'avoir quitté un territoire sacré, dirions-nous, une terre sainte. Et cette terre sainte suggère aux croyants quatre dimensions de piété, quatre dimensions de vie indissociables, à ne céder sous aucun prétexte à l'ennemi. Satan, en permanence dans nos vies, convoite ce territoire stratégique. Et céder une dimension de ce territoire, vous le cédez tout entier. Nous allons le comprendre, ceci ensemble. Dit de manière très directe, dans le cadre de l'histoire de Ruth, Élimélec et Naomi ont abandonné les champs de Bethléem pour les champs de Moab. Vous savez, le livre de Ruth, c'est le livre des champs, C-H-A-M-P-S, bien entendu. Dans le texte original du livre, vous avez 14 mentions du mot « champ ». Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas uniquement parce que c'est une petite histoire idyllique qui se passe en milieu paysan, agricole. Le Saint-Esprit nous interpelle à quelque part. Pourquoi cette insistance? Pourquoi est-il continuellement question des champs de Moab? Quand il est dit « séjourner dans le pays de Moab », vous pourriez traduire « dans la campagne », »,« dans les champs de Moab ». Parce que c'est là ce que dit le texte original, les champs. D'ailleurs, pour prouver que ceci a de l'importance, si vous allez au chapitre 2 et au verset 8, dans cette rencontre extraordinaire entre Boaz et Ruth, le grand conseil, le premier conseil que Boaz donne à Ruth alors qu'il est en train de faire sa connaissance, c'est celui-ci: écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Et il y a d'autres champs qui sont dangereux, qui sont minés, surtout reste bien dans ce champ. Entre nous, soit dit, on y reviendra, ça c'est le champ de la grâce. Il y a un autre champ, le champ de la loi. Il y avait le champ de Moab, n'est-ce pas? Il y a tout un enseignement sur des champs très différents les uns des autres. Nous ne pourrons pas voir toutes ces choses, nous devons sélectionner. Mais c'est très intéressant. Et puis, c'est d'autant plus intéressant que plus tard, quand Ruth la Moabite rejoint sa belle-mère, enthousiasmée, bouleversée par cette rencontre du hasard de Dieu, puisque il se trouva que, il arriva comme par hasard, dit le texte au début du chapitre 2, nous y reviendrons certainement aussi, ces hasards de Dieu, n'est-ce pas? Lorsqu'elle raconte à sa belle-mère ce qui lui est arrivé, elle n'oublie pas de préciser quelque chose qui l'a frappé, qui l'a remué. Il m'a dit, aussi verset 21, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Ne quitte pas ce champ. Et elle utilise d'ailleurs le mot même qui était dans la bouche de Bose, « reste ». Or, ce mot « reste » qui est au verset 8 du chapitre 2 et au verset 21, se trouve aussi dans le premier chapitre. Mais il est généralement traduit d'une autre manière, mais en hébreu c'est le même terme, chapitre 1, verset 14. Il est question d'un concert de larmes. Il y a des concerts de louanges, il y a aussi des concerts de larmes. Orpa et Ruth élevèrent la voix, pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère pour la quitter. Et puis il est ajouté, mais Ruth s'attacha à elle. C'est le même mot, s'attacha. Et ce mot se trouve également, et ce n'est pas sans intérêt, dans Genèse 2, 24, quand il est dit que l'homme s'attachera à sa femme et qu'ils seront une seule chair. Littéralement, collera. Le terme est extrêmement fort, il est d'ailleurs utilisé ailleurs dans les Écritures pour parler de coller deux choses de manière à ce que on ne puisse plus les dissocier l'une de l'autre sans qu'il y ait déchirure. Entre parenthèses, ce qui, et nous le disons toujours avec beaucoup de peine, ce qui sous-entend que toute séparation dans le couple ne peut être qu'une déchirure. Parce que le mariage, c'est véritablement collé, n'est-ce pas? Mais alors, ce qui est beau, c'est que le terme soit utilisé pour évoquer la relation qui va caractériser Ruth avec sa belle-mère et, comme nous l'avons vu au-delà, hier matin, avec l'Éternel. C'est un véritable mariage avec Dieu qui est en train de se préparer. Et ce même terme est repris là, chapitre 2, verset 8. Mais colle avec mes serviteurs, ne bouge pas, colle-toi dans ce champ, n'est-ce pas? Et n'en sors surtout plus, d'autres champs de Bethléem sont des champs d'urgence. Alors, quelle est cette position stratégique, ce territoire sacré, cette terre sainte que quitte le rétrograde? Oh, c'est très simple. Tout d'abord, bien entendu, Élimélec a quitté Bethléem. Élimélec a quitté Bethléem, et ce livre de Ruth est extraordinaire, il est suggestif de manière absolument fantastique. C'est peut-être pour cela que, dans les années, au début des années 60, il a fortement accroché mon cœur. Quand on réalise, n'est-ce pas, que Bethléem veut dire la maison du pain. La maison du pain. Voilà donc un homme, Dieu et roi, qui habite un lieu qui s'affirme comme étant la maison du pain, et qui, sous la pression d'une situation difficile, d'une époque de crise, quitte la maison du pain pour aller chercher du pain ailleurs. C'est le boulanger qui va frapper à la porte de la boulangerie voisine, n'est-ce pas? Et vous comprenez pourquoi alors nous avons lu tout à l'heure Jean 6? Parce que Bethléem est doublement suggestif à cet égard. Bethléem, maison du pain. À la fois lieu de l'incarnation du Fils de Dieu, et puis maison du pain par excellence, n'est-ce pas? Je suis le pain de vie. Alors nous dirons qu'Élimélec a perdu le contact avec son roi, avec la source de l'abondance, Et être rétrograde, c'est ça. Inutile de chercher de midi à 14 heures. Être rétrograde, c'est s'éloigner de Bethléem. C'est perdre cette relation privilégiée, toute particulière, avec Jésus-Christ, qui nous met en relation avec Dieu comme un Père. Et voyez-vous, Satan nous laisse toujours entendre que nous pouvons trouver ailleurs qu'en Jésus-Christ tout ce dont notre cœur a besoin pour être satisfait. Et mes amis, j'aimerais le dire, que nous ayons une année de vie avec Christ, que nous en ayons 10, que nous en ayons 20, que nous en ayons 30 ou 40, le problème est toujours le même. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous soyons là-haut, l'effort principal de la puissance des ténèbres sera de nous faire rompre notre amarrage, en quelque sorte, en Jésus-Christ. C'est la parabole du fils prodigue. La parabole du fils prodigue n'est pas d'abord un message d'évangélisation. C'est le message d'abord de la vie rétrograde et du réveil qui lui succède. Fils prodigue, vous et moi, et fils et filles prodigues, nous le sommes. Peut-être des dizaines de fois dans notre pèlerinage terrestre. Chaque fois que nous pensons pouvoir trouver la plénitude de satisfaction dans notre cœur en dehors de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et nous sommes dans un monde, et surtout dans nos pays d'Europe occidentale, même si la situation se complique très rapidement, nous sommes dans une situation, n'est-ce pas, où il y a de telles facilités matérielles, même au sein de nos difficultés, mais qui ne sont encore rien par rapport aux difficultés que la plus grande partie de cette terre connaît. Au plan économique, il faut quand même nous en souvenir, n'est-ce pas? Je suis rentré il y a peu de temps de Madagascar, c'est autre chose là-bas. Alors bien entendu, nos amis malgaches, qui se nourrissent de si peu de choses et qui vivent de si peu, si je vous disais que là-bas, c'était mon quatrième voyage, je commence un peu à connaître le pays, on m'a volé 3 boutons. C'est sérieux, on m'a volé 3 boutons. Je ne vais pas vous raconter les circonstances, mais on m'a volé 3 boutons. Et c'était un vol sérieux. Je pense qu'il viendrait à personne ici l'idée de venir me voler en douce 3 boutons sur ma veste dans notre chambre. Mais il faut voir, mes bien-aimés, l'œuvre de Dieu là-bas. Même si c'est difficile, je peux vous assurer que, bon, si ce n'était pas assez épuisant pour la santé, je ne demanderais qu'une chose, c'est d'emmener ma famille là-bas pour vivre avec elle ce que je vis chaque fois que je suis là-bas. Pourquoi ? Parce que ces hommes et ces femmes là-bas, pour eux, Christ compte beaucoup plus. Quand on a peu de choses dans le garde-manger, hein, quand les boutiques ne sont pas pleines, quand les rayons de pharmacie sont vides, quand les médecins manquent d'instruments de travail de manière absolument dramatique, il est évident que Christ, c'est autre chose, n'est-ce pas ?
Et chaque fois que je pars outre-mer, chaque année, une ou deux fois par an, chaque année, je suis bouleversé dans mon cœur. La vie rétrograde commence toujours par la perte d'une relation vivante avec Christ. Parce que la Bible appelle un abandon, un oubli du Seigneur. Et c'est le grand cri des prophètes. Continuellement, les prophètes, n'hésitant pas à se répéter, hurlent la douleur d'un Dieu qui se sent abandonné de son peuple. Prenez le début du livre d'Ésaïe, tiens, dans les tout premiers versets. Mon peuple m'a abandonné. Prenez le début du prophète Jérémie. Les premiers chapitres de Jérémie sont bouleversants continuellement. Jérémie hurle la douleur d'un Dieu abandonné de son peuple. Prenez le livre d'Osée. Je vous l'avais dit que nous appuierions l'étude du livre de Ruth sur le livre d'Osée. Pour bien montrer, nous aurions pu le faire avec d'autres livres, mais plus particulièrement avec le livre d'Osée, pour bien montrer qu'il y a une unité dans la pensée de Dieu en ce qui concerne ce message que nous essayons de développer, de partager ensemble. Disons quelques mots d'Osée, de manière à ce que, ensuite, au fil des prochaines études, nous puissions citer ici et là un certain nombre de versets du livre d'Osée qui corroborent, je dirais, qui illustrent de manière bouleversante le début de cette histoire de Ruth. Alors Osée, probablement un prophète originaire du royaume du Nord. Royaume du Nord. Je pense que la plupart, sinon tous, vous savez ce que cela signifie. Le règne de Salomon se termine, hélas, très mal. Et son successeur direct est un de ses nombreux fils, Roboam. Mais il a aussi un serviteur qui s'est révolté contre lui, qui s'est enfui à l'étranger, Jéroboam, et qui revient, et qui, par la volonté de Dieu, comme un jugement de Dieu, conséquence de cette mauvaise fin de règne de Salomon, va prendre en quelque sorte une partie du pouvoir. Il y aura au sud Roboam comme roi, d'un tout petit territoire centré sur Jérusalem, toute la Judée, si vous voulez, et puis un immense territoire de 10 tribus, capitale, enfin elle deviendra plus tard Samarie, sur laquelle donc Jéroboam, ce serviteur rebelle, va régner. Nous sommes aux alentours de 930 avant Jésus-Christ. Et Jéroboam craint que son royaume du Nord naissant lui échappe à cause des questions de culte à l'Éternel, du sanctuaire national et unique dans le territoire d'Israël qui était situé à Jérusalem. Il prend donc la décision d'instituer une sorte de culte concurrent, en érigeant 2 sanctuaires, l'un tout à fait au nord, dans la tribu de Dan, et l'autre à Bethel. Et au cœur de ces 2 sanctuaires, 2 veaux d'or. Et alors, va commencer une époque qui va conduire ce royaume du Nord de décadence en décadence, à cause du péché de Jéroboam et de ce culte idolâtre lorsqu'il présente ce veau, notamment à Bethel, au peuple d'Israël en disant, eh bien voilà, ça c'est le Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Il est intéressant de constater que dans toute la suite de l'histoire du royaume du Nord, jusqu'en 722 avant Jésus-Christ, tous les successeurs de Jéroboam vont être jugés par rapport à lui. Et le refrain reviendra continuellement, il ne quitta pas la voie de Jéroboam. C'est-à-dire qu'aucun de ses successeurs, même pas Jéhu qui n'a pas été n'importe qui, même pas lui qui a été une sorte de redresseur de tort au nom de l'Éternel, tout en vivant une vie un peu spéciale, même lui n'aura pas le courage de supprimer ses veaux d'or. Et cela va marquer le royaume du Nord d'une manière absolument terrible. Ça ne va pas être d'ailleurs seulement le problème des veaux d'or, il y aura quantité d'autres problèmes, mais c'est un problème essentiel. Et puis donc, je reviens à Osée, il est originaire très certainement de ce royaume du Nord. Dieu a donc suscité dans sa grâce, je dis bien dans sa grâce, un prophète dans ce royaume qui n'a eu que des mauvais rois. Dans le royaume du Sud, il y aura à peu près la moitié de bons rois et de mauvais rois. Mais dans le royaume du Nord, tous seront des mauvais rois. Mais Dieu va quand même se susciter des prophètes absolument remarquables. C'est Élie, c'est Élisée, et puis ici en particulier Osée. Et quand Dieu va susciter Osée, il va susciter Osée, le prophète, pour une longue période. Bon, les commentateurs ne sont pas d'accord les uns avec les autres, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas des points de repère très suffisamment précis, si vous voulez, ce qui fait que son ministère prophétique va s'étaler sur une trentaine, une quarantaine, une soixantaine d'années peut-être, visons le milieu, à peu près une trentaine d'années, certains pensent, et je suis de ceux-là, que ce ministère s'est étalé entre 755 et 725 avant Jésus-Christ. 725. Vous vous souvenez que tout à l'heure, j'ai parlé de 722. 3 ans plus tard. 722 sonne le glas du royaume du Nord. Le péché du royaume du Nord est à son comble. Et le roi d'Assyrie va déporter toute cette population, ces 10 tribus, vers son empire, n'est-ce pas? Il va y avoir un déracinement complet, une situation extrêmement difficile. Il s'agit donc, en Osée, du dernier prophète qui s'adresse au royaume du Nord jusqu'au temps de sa déportation. Vous imaginez le caractère solennel du message du prophète Osée. Osée va assister à l'accomplissement des prophéties qu'il aura données pendant plusieurs années de la part de l'Éternel. Pour vous le situer, parce que c'est toujours intéressant, j'aimerais que cette série d'études vous encourage à lire davantage l'Ancien Testament, une fois de plus, parce que l'Ancien Testament est pour notre temps. Moi, je vais vous dire une chose, hein, entre nous, c'est une confidence. Mais bien aimé, vous ne pouvez pas avoir une vision juste de Dieu si vous ne lisez pas l'Ancien Testament. Parce qu'il se trouve que dans les Écritures, la vision de Dieu dans sa personne n'est pas donnée par le Nouveau Testament. La vision de Dieu dans sa personne, y compris dans sa paternité, est donnée d'abord dans l'Ancien Testament. Or, l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui souffre de son manque de vision de Dieu. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes terriblement, je l'ai dit l'an dernier, je l'ai dit l'année d'avant, mais c'est de pire en pire. Nous sommes terriblement centrés sur l'homme. Nous sommes terriblement préoccupés par l'homme. Or, notre juste gestion, je dirais, de la vie avec Christ, de la vie de l'Église, de la vie individuelle, de la mission, de l'évangélisation, de l'approche de nos contemporains, repose sur une juste vision de la personne de Dieu. Tous les hommes et les femmes de Dieu qui ont eu un impact sur l'Église de leur époque et sur la société de leur époque ont été des hommes et des femmes qui avaient une vision très solide et équilibrée de la personne de Dieu. C'était une parenthèse. Situons Osée par rapport aux autres prophètes. Eh bien, comme contemporain d'Osée, il y a dans le royaume du sud, donc en Juda, le prophète Ésaïe et le prophète Michée, mais qui, eux, vont prophétiser plus longtemps que notre ami Osée dans le nord. Et puis alors, il y a, c'est intéressant, dans le royaume du nord, il y a Amos. Et Amos a ceci de particulier, c'est que c'est un drôle de monsieur, il vient du sud, une dizaine de kilomètres à peu près au sud de Bethléem, mais Dieu l'appelle, lui, à prophétiser au nord. Et Dieu a même donné du renfort à Osée, et je dirais même qu'Amos a préparé le ministère d'Osée. Il y a une espèce de fin de période d'Amos qui correspond au début, si vous voulez, de la période d'Osée, et Osée va se servir aussi du ministère prophétique d'Amos et de ce qu'Amos a dit. Il va répéter un certain nombre de choses et il va aller encore plus loin pour prolonger le ministère du prophète Amos. Et quand on lit Osée, il faut lire Amos en même temps pour avoir une vision complète de la situation politique d'Israël à cette époque. Oh, Amos est passionnant. Ce cultivateur d'une variété de figuiers tout à fait particulière, qui était propriétaire de troupeaux également, et c'était surtout l'homme qui ne craignait personne. Le Lucky Luke des prophètes de l'Ancien Testament. Extraordinaire, ce personnage. Quelle est la situation politique d'Israël au moment où Osée commence son ministère? Eh bien, on est à la fin du règne de Jéroboam. Deux, ça c'est fait pour troubler ceux qui n'ont pas envie d'étudier leur Bible. Et qui disent, mais il y a des noms qui se ressemblent, il y a un Jéroboam 1, un Jéroboam 2, comment les situer l'un par rapport à l'autre? Il y a un roi Joram dans le nord, il y a un roi Joram dans le sud, il y a un Akazia au nord, il y a un Akazia au sud. Tout est fait pour dissuader ceux qui sont superficiels de lire les Écritures. C'est comme ça dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible est pour ceux qui ont envie de creuser. Non pas ceux qui ont 3 bacs et 4 doctorats, mais ceux qui, quel que soit leur niveau personnel, ont envie de chercher la personne de Dieu. Vous voyez, c'est comme Jésus quand il parlait en parabole. Hein? Ça, c'était pour obliger à creuser. Alors, les vrais, les disciples, s'approchaient de lui en secret après, n'est-ce pas, en particulier, en privé, lui disaient, écoute, on n'a pas compris, nous, on veut savoir. Alors, Jésus leur expliquait. Alors, il y a un Jéroboam 2, et Jéroboam II, qui est bien loin du premier, qui va régner à peu près entre 782 et 741, 41 ans de règne, s'il vous plaît. Jéroboam II va être un roi, un mauvais roi, mais un roi très habile, très capable, et qui va permettre au royaume du Nord de connaître une grande prospérité. La plus grande période de prospérité qu'est connue le royaume du Nord dans toute son histoire. Il n'y avait pas de guerre avec l'extérieur. Le royaume du Nord n'était pas vassal d'un quelconque empire, comme ça a souvent été le cas, donc il n'y avait pas de tribu à verser. Il y avait donc de l'argent en caisse. Très souvent, le problème d'Israël, ça a été ces questions de tribu lorsqu'il y avait un suzerain, n'est-ce pas, à qui il fallait verser des sommes absolument colossales et promettre, jurer fidélité et se tenir quoi dans son coin, n'est-ce pas? Là, du temps de Jéroboam, c'est le contraire. Période de prospérité, période aussi d'extension du royaume. Il va retrouver des frontières, c'est l'époque de Jonas. Dieu va utiliser Jonas, par exemple, pour prophétiser, ça c'est encore la grâce de Dieu, que de ce temps-là, à l'époque de Jéroboam, le pays retrouverait des frontières, comme on dit aujourd'hui en politique étrangère, sûres et reconnues, n'est-ce pas? Ça a été le premier ministère de Jonas, Avant qu'il soit appelé à partir vers Ninive, Dieu lui demande de roucouler, puisqu'il s'appelait Colombe, n'est-ce pas, un petit peu dans le cadre du peuple d'Israël. Alors là, il est d'accord, hein, Jonas roucoule de tout son cœur parce qu'il a de bonnes nouvelles de la part de Dieu, de la grâce de Dieu pour le royaume du Nord. Puis après, quand Dieu lui dit, eh ben maintenant tu vas partir plus loin, il cesse de roucouler, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'époque de Jéroboam II. Qui dit prospérité, dit luxe, arrogance, sécurité, oppression des pauvres, décadence morale, idolâtrie. Ça, c'est le drame, c'est l'envers de la médaille, comme très souvent, partout sur la terre. Ça va bien, quand on est gras, épais, replé, on oublie l'Éternel. D'ailleurs, il faut le dire, cet âge d'or ne touchera pas qu'au royaume du Nord. Même le royaume du Sud, Juda, connaîtra un moment tout à fait particulier, très, très intéressant, sans oppression extérieure aussi, de la même manière que dans le Nord. Alors c'est là qu'il faut lire Amos. Si vous lisez le prophète Amos, vous allez de page en page et presque de verset en verset avoir une description du niveau de vie du pays. La manière dont on vit dans des palais, des maisons d'ivoire, on vit sur des magnifiques tapis, les génisses de Bazan, les femmes des grands trinquent ensemble, n'est-ce pas, etc. Enfin, il se passe des choses absolument incroyables à cette époque. Et puis sur la fin de Jéroboam II, les choses commencent à changer. Une période très troublée va suivre. 6 rois vont succéder à Jéroboam II jusqu'à la grande déportation de 722. Et sur ces 6 rois, 4 vont être assassinés en 20 ans. Période de terrible instabilité où on commence à payer les conséquences de l'idolâtrie, de la perversion sexuelle, du mépris des pauvres, de la violation continuelle de la justice. Tout ça se paye un jour ou l'autre. Il suffit que Jéroboam meure et puis tout commence à s'écrouler. Vous savez, il y a beaucoup d'enseignements pour tous les temps quand on voit ce que la Bible dit sur ce sujet. Et alors, à cette époque, l'Assyrie, en un seul mot, va devenir une grande puissance. Elle devient la première puissance, cette région du monde. L'Égypte, elle, est en train de s'affaiblir. Et l'Égypte va jouer un jeu très perfide puisqu'elle va encourager les pays qui sont assujettis à la Syrie à se désolidariser, à comploter contre la Syrie et à accepter son joug à elle. Et ça va être l'énorme drame d'Israël. Avec un parti dans le royaume du Nord qui dira « il faut être soumis aux Assyriens, leur payer le tribut, nous tenir comme il faut, avoir leur aide pour que je puisse garder mon trône », ça c'est ce que diront certains des rois. Et puis il y aura un autre parti dans le royaume du Nord qui dira « non, 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 il faut comploter ». Il va y avoir des complots contre la Syrie, ce qui va coûter très cher, puisque c'est comme ça que le dernier roi du royaume du Nord, Osée, finalement, ayant comploté, va être écrasé et que la déportation aura lieu. Et c'est intéressant ce que nous disons là, parce que la Syrie et l'Égypte, c'est dans l'histoire du royaume du Nord l'équivalent de Moab, dans l'histoire d'Élimélec, de Naomi et de leur famille. Cette tentation de s'allier à des puissances étrangères ou de se courber sous un joug étranger plutôt que de faire confiance à l'Éternel. Ce sera le grand message des prophètes. Ce sera le même message, mais tourné vers d'autres puissances plus tard dans l'histoire du royaume du Sud. Constamment, le peuple sera tenté par de mauvaises alliances au lieu de s'appuyer sur l'Éternel. D'ailleurs, dans le livre d'Osée, l'Égypte est mentionnée 13 fois, et la Syrie est mentionnée 9 fois. Alors, le personnage maintenant. Osée est un personnage très prenant. On l'a appelé à la fois l'Ésaïe et le Jérémie des 10 tribus. Ésaïe parce qu'il a une vision de la personne de Dieu qui est une vision forte. Le Jérémie parce qu'il est l'équivalent de Jérémie dans le royaume du Sud plus tard. Il faut savoir que Jérémie a été le dernier grand prophète du royaume du Sud. Lui alors a prêché pendant 40 ans un message qui a été rejeté jour après jour par le peuple de Juda. Et dans ce message, il y avait l'annonce du siège de Jérusalem par l'armée babylonienne, n'est-ce pas ? Et puis l'exil. Et le drame de Jérémie a été celui d'un prophète qui a été obligé de voir de ses yeux la réalisation de toutes les menaces prophétiques qu'il avait proférées de la part de l'Éternel pendant des dizaines d'années. C'est-à-dire que vraiment, il y a un parallèle à établir entre Jérémie au sud, dernier prophète du sud, et Osée, dernier prophète du royaume du nord. On l'a appelé aussi le Saint Jean de l'Ancien Testament. Parce que c'était un homme très affectif, extrêmement sensible, passionné, doué d'une nature aimante. Il parle avec beaucoup de fougue, avec autorité, avec vivacité, avec précision. Son message s'entrechoque, ce sont des phrases extrêmement courtes. Il parle avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup d'amour et une grande compassion. Il y a d'ailleurs là aussi un parallèle avec Jérémie. Jérémie est à la fois un homme passionné de Dieu, un amoureux de Dieu, mais en même temps, un homme qui aime le peuple auquel il appartient. Il ne hait pas le peuple contre lequel il prophétise. Il l'aime, il s'identifie à ce peuple. Il souffre d'être compris comme un comploteur contre Juda, comme un traître contre sa nation. Et on constate en lisant Jérémie que continuellement, Jérémie est un homme écartelé dans son amour puissant, profond, entier pour Dieu, et dans son amour pour le peuple avec lequel il vit et dont il ne veut pas partager le péché. Eh bien, finalement, Osée, c'est le même personnage. À la fois un homme indigné de la manière dont l'amour de Dieu est violé, bafoué, piétiné, mais en même temps, un homme qui est rempli de la compassion et de l'amour de Dieu, qui passe continuellement de l'indignation à la grâce. Continuellement, vous avez cette sorte de douche écossaise, n'est-ce pas ? Indignation, grâce, indignation, grâce, indignation, grâce. Et finalement, ce chapitre 14 du livre d'Osée, où c'est la grâce qui expose. Le chapitre 14 est un des plus beaux, peut-être le plus beau des chapitres de la Bible, sur le retour du rétrograde poussé par la grâce du Seigneur dans ses bras. Il est extraordinaire ce chapitre. Le message de ce prophète, quelques mots simplement encore, je l'ai dit, Osée dénonce le péché d'Israël, la corruption morale, sociale, politique, le règne de l'orgueil, du mensonge, du matérialisme, la poursuite effrénée des biens, le règne de la contestation aussi, le refus de l'autorité, le règne de l'insécurité. Mais Osée, à ce site particulier, c'est qu'il va placer un péché au-dessus de tous les autres. Il va souligner qu'il y a un péché fondamental qui entraîne tout ce que je viens de vous dire maintenant. Ce péché, c'est celui de l'infidélité spirituelle. Le culte autour du veau d'or, toujours présent, dont Osée parle avec indignation. La prostitution sacrée, l'idolâtrie généralisée, l'infidélité par rapport à l'Éternel. Et pour dénoncer cette infidélité spirituelle, Osée va s'inspirer, et c'est là toute la particularité du livre d'Osée, Osée va s'inspirer du symbolisme conjugal. Et il va aller puiser ce symbolisme conjugal sur l'ordre de l'Éternel dans sa propre situation conjugale et familiale. À savoir qu'il va épouser une prostituée dont il va avoir des enfants. Cette prostituée va l'abandonner, va le quitter pour se livrer à d'autres hommes. Il va finalement, lorsqu'elle sera dans sa déchéance la plus complète, la racheter pour lui montrer que lui, en aucun cas, ne veut du divorce, qu'il veut continuer à l'aimer et lui donner une nouvelle chance, en quelque sorte, de vivre une vie conjugale remarquable. Ceci, il le partage dans les trois premiers chapitres. Et tout le reste du livre d'Osée part de ce symbolisme conjugal. L'alliance de Dieu avec Israël est comparé à un mariage. Et là où le prophète Amos présente Dieu comme le roi et le juge d'Israël, Osée va le décrire comme l'époux et le père de son peuple. Et c'est pour cela que si nous voulons développer une juste image de l'époux dans nos vies conjugales et du père dans nos vies familiales, le livre d'Osée est par excellence le livre prophétique qui peut nous y aider. Moi, j'ai été bouleversé dans mon propre cœur d'époux et dans mon cœur de père en méditant et reméditant ce livre. Et je ne m'attendais pas à cela. Je ne m'attendais pas à cela depuis une bonne trentaine d'années. Je lis donc la Bible d'un bout à l'autre continuellement, de la Genèse à l'Apocalypse. Et comme ça, vous savez, de temps en temps, Dieu vous ouvre un livre. Et un jour, en arrivant simplement dans cette lecture cursive de la Bible, en arrivant au livre d'Osée, je n'ai plus pu en sortir. Je n'ai plus pu en sortir. Le livre d'Osée, par la grâce de Dieu, s'est subitement ouvert à mon cœur, au point que j'ai été presque empêtré, mais dans le bon sens du terme, dans ce prophète Osée, mais bouleversé par tout ce que Dieu me révélait sur sa personne d'époux et de père et sur ma propre condition humaine dans ma relation avec lui, dans mes propres infidélités. Et ce livre d'Osée, de cette manière, est devenu un livre extraordinairement cher à mes yeux. Et c'est plus tard que j'ai commencé à réaliser qu'il pouvait merveilleusement coller avec le livre de Ruth, puisque le livre de Ruth parle d'idylle, de mariage, etc. N'est-ce pas? Ça allait si bien ensemble. Lorsque vous ouvrez le livre d'Osée, il y a une série de mots qui reviennent continuellement dans les six premiers chapitres. J'ai compté 29 fois dans les six premiers chapitres le mot prostitution, le mot amant et le mot adultère. 29 fois dans les six premiers chapitres. Dans le fond, Osée présente d'emblée le drame de la prostitution d'Israël. Osée, c'est le prophète de l'amour bafoué, de l'amour outragé de Dieu. Et je sais que dans ma vie, il y a des moments où je bafoue l'amour de Dieu, où j'outrage l'amour de Dieu lorsque je tombe dans l'adultère, dans le domaine spirituel. Et je sais que toutes les autres formes de péché que je peux connaître dans ma vie personnelle découlent d'abord et avant tout de ce problème dans ma relation avec Dieu en Jésus-Christ. Alors nous allons nous arrêter là ce matin. Demain ou lundi, nous allons voir comment nous développerons un peu ce message de l'amour indéfectible de Dieu par rapport à son peuple, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit par rapport à nous, à l'Église. Et nous illustrerons de cette manière le problème d'Élimélec et de Naomi qui ont quitté la maison du pain, comme plus tard le royaume du Nord était ce peuple qui vivait lui aussi loin de la maison du pain, loin du Seigneur Jésus. Alors souvenons-nous simplement ce matin que la vie rétrograde commence toujours par une perte dans la qualité de nos relations personnelles avec Jésus-Christ. Qu'en est-il de la personne de Jésus-Christ dans ma vie personnelle? Nous voulons prier. Père, nous te remercions pour Bethléem, pour la maison du pain. Merci pour ce pain vivant, venu tout droit du ciel et brisé pour chacun d'entre nous, pour moi, sur la croix. Merci pour ce pain vivant destiné à nourrir notre vie quotidiennement. Nous te bénissons parce que tu es celui qui remplit, qui rassasie ceux qui se tournent vers Bethléem. Seigneur, pardon pour nos idoles. Pardon pour nos prostitutions faciles, pour les amants plus ou moins secrets, moabites, assyriens, égyptiens, qui sucent notre vie, qui nous vident de toute substance d'en haut. Nous te bénissons, Seigneur, de nous avoir donné ta parole. Nous te remercions de ce que nous pouvons faire le point à partir de ce message prophétique. Nous te bénissons aussi pour ta grâce que nous entrevoyons, à la fois dans ce début du livre de Ruth comme dans le livre d'Osée. Merci. Merci de cette possibilité de revenir vers toi, vers Bethléem. Continue à travailler dans nos cœurs. Garde-nous des assauts du malin. Garde-nous des découragements venant de la puissance des ténèbres. Garde-nous de toute introspection morbide, inutile. Merci, merci de savoir que ton esprit est parfaitement capable de nous montrer où nous situer. Merci d'inscrire ce que nous partageons, non seulement dans nos émotions, dans nos sentiments, mais aussi dans notre intelligence, dans notre volonté, jusqu'au plus profond de notre cœur, pour que cela devienne partie intégrante de notre personne. En tout cas, Seigneur, ce matin, en ton nom, nous exaltons le Fils, ton Fils, Bethléem, le pain vivant qui satisfait pleinement.